Tout d'abord, je tiens à présenter brièvement Solidar Suisse, qui est une ONG active dans la coopération au développement. Notre point fort, ce sont les droits du travail et le travail décent. Et évidemment que pour promouvoir le travail décent et les droits du travail, nous collaborons avec des organisations syndicales en Chine, dans les pays du Sud et en Europe du Sud-Est. En Amérique latine, nous sommes actifs au Nicaragua, au Salvador et en Bolivie. De mon côté, je suis chargé de communication de Solidar Suisse pour la Suisse romande. Je connais très bien les questions de protectionnisme. J'interviens assez souvent sur ces questions dans les médias. Avec une pensée, et là je vous rassure d'emblée, essentiellement inspirée par les travaux d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, qui n'est pas un économiste, qui est un anthropologue et un démographe, et qui donc ne part pas du principe que l'être humain est un acteur rationnel qui cherche systématiquement à maximiser son profit. Pour lui, nous ne sommes pas de vulgaires animaux qui voulons toujours gagner plus d'argent, mais il y a des dimensions historiques, familiales, anthropologiques, inconscientes, qui guident le comportement des peuples dans le cadre des processus de modernisation qui ont eu lieu au XXe siècle et dans le cadre de la mondialisation. Donc c'est une approche qui va vraiment au-delà de l'approche économique classique qui consiste à dire l'être humain est un acteur rationnel qui cherche à maximiser ses intérêts et si tout le monde fait ça, nous allons vers une mondialisation heureuse avec ensuite le miel qui va couler abondamment du haut vers le bas. De mon côté, je vais faire une présentation, enfin j'ai préparé un résumé, je ne sais pas s'il a été distribué, de mon intervention, parce que je vais quand même faire une intervention assez globale et assez axée sur des questions économiques afin de montrer ce qu'est le libre-échange et quelles sont les conséquences du libre-échange à l'échelle mondiale dans le Sud et surtout dans le Nord. Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser très clairement que le libre-échange est assez mal nommé. C'est pas vraiment un libre-échange. Le libre-échange, c'est beaucoup plus un échange dérégulé. Et c'est en définitive une guerre de tous contre tous, un système qui jette les travailleurs les uns contre les autres en mettant en concurrence des travailleurs dont les niveaux de salaire et les niveaux de protection sociale sont extrêmement différents avec un certain nombre de conséquences que j'aurai l'occasion de développer. Cela dit, je tiens d'abord à commencer par un constat qui a été dressé il y a une vingtaine d'années par un personnage qui est parfois perçu comme extrêmement subversif. Je dévoilerai son identité dans environ 2 minutes. Un personnage, c'est pas Emmanuel Todd, là c'est un autre, qui a constaté que la mondialisation a des conséquences, notamment en Asie du Sud-Est, qui est une spécialisation dans les exportations très bon marché. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une main-d'œuvre qui travaille, bon jusque-là c'est assez logique, qui est mal payée, et ça signifie qu'il y a une absence de marché intérieur. Vu que les salariés sont très mal payés, il est quasiment impossible de vendre les produits sur le marché intérieur. Quasiment tout est destiné à l'exportation, et cela signifie que ces pays d'Asie du Sud-Est se retrouvent entièrement dépendants des exportations et de la conjoncture mondiale. Autre élément, conséquence importante dans le Nord, on se retrouve avec une pression à la baisse sur les salaires via notamment les délocalisations, davantage de précarité et une baisse des salaires réels. Ce processus est le fruit de la mise en concurrence de sphères économiques avec des niveaux de salaire et de protection sociale très différents. c'est en définitive une forme de concurrence ultra déloyale. Et la personne qui est là derrière, c'est Walden Bello. C'est le père de la démondialisation, qui est généralement diabolisé dans les médias comme une espèce d'horreur ultra-protectionniste et quasiment fasciste. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement du constat que j'ai dressé et du fait que pour qu'une économie mondiale puisse fonctionner, il faut un certain nombre de règles et il faut limiter dans une certaine mesure l'interconnexion entre les sphères économiques. Ça, c'est un aspect qui vient surtout de la pensée de Maurice Allais, prix Nobel d'économie durant les années 90. Pour la petite histoire, c'est le seul Français qui a eu un prix Nobel d'économie. Maintenant, quel est en définitive l'impact du libre-échange au niveau mondial et dans les pays du Nord ? Dans les pays du Nord, bah, évidemment, le libre-échange va favoriser les délocalisations directes ou indirectes. Maintenant, la plupart des instituts économiques, lorsqu'ils analysent les délocalisations, ben, ils vont regarder, il y a telle usine, elle supprime 2000 emplois, il y a 300 emplois qui sont transférés en Chine, donc voilà, ça fait 300 suppressions d'emplois, on additionne le tout, ok, alors en France, par année, il y a à peu près 40 000 emplois perdus à cause des délocalisations. Bon, c'est une approche qui est assez pauvre d'un point de vue scientifique, qui ignore d'autres paramètres. Le premier étant que quand vous avez une grande usine qui ferme, ça a un impact sur toute l'économie régionale. Vous avez des fournisseurs qui vont devoir fermer boutique, qui vont se retrouver en difficulté et licencier du monde, et il y a donc un impact économique sur la région qui entoure une grande usine qui décide subitement de fermer. Et puis un autre élément qui est souvent occulté de ces analyses, c'est que dans une situation de libre-échange qui favorise les délocalisations, avec une économie totalement ouverte, l'État n'a quasiment plus de moyens de piloter l'économie. Et là, je ne parle vraiment pas d'économie planifiée. Il y a eu quelques aberrations assez grandioses. Je ne sais plus quel État d'Afrique, à l'époque, qui était communiste, avait une économie très planifiée. Et une fois, les fonctionnaires avaient réussi à recopier un plan quinquennal de la Tchécoslovaquie. Donc, ils avaient prévu de fabriquer 200 chasse-neige. Voilà, mais là, on est très éloigné de cette économie planifiée qui peut conduire à des aberrations notoires. Il s'agit plutôt d'un pilotage par l'État qui a été fait, par exemple, en Finlande. En Finlande, au début des années 90, le pays a été durement touché par la crise économique mondiale et très durement touché par la chute de l'URSS. Il y avait beaucoup d'exportations finlandaises vers l'URSS, enfin la Russie, et tout à coup, ben, au moment où le communisme s'est effondré, l'économie russe s'est aussi brutalement effondrée, entre autres parce qu'on lui a appliqué une thérapie de choc inspirée de l'école de Chicago, et les exportations finlandaises vers la Russie ont chuté. Donc vraiment, la Finlande s'est retrouvée dans une situation extrêmement délicate au début des années 90, mais vu que l'économie n'était pas encore totalement ouverte, l'État disposait encore d'une certaine marge de manœuvre pour se dire, mais tiens, on pourrait reconvertir notre industrie vers les nouvelles technologies, vers la téléphonie mobile notamment. Et du coup, l'État a investi dans la formation, la recherche, et c'est ce qui a contribué à ce que Nokia, qui auparavant fabriquait notamment des pneus et du papier de toilette, à ce que Nokia se reconvertisse vers les nouvelles technologies et devienne un leader mondial de la téléphonie mobile. Et tout cela a complètement relancé l'économie finlandaise et a permis de résorber considérablement le taux de chômage. Alors voilà, cette parenthèse sur la Finlande, c'était pour dire que quand vous n'avez pas encore des économies totalement ouvertes, l'État peut assumer un certain pilotage, faire une politique de réindustrialisation, ce qui n'est plus possible dans un système de libre-échange où des entreprises, des pans entiers de l'industrie peuvent d'un seul coup délocaliser. Et en intégrant tous ces paramètres, un économiste comme Jacques Sapir arrive à la conclusion qu'en France, sans les effets du libre-échange, le taux de chômage serait environ de 4%. Cela dit, le gros impact du libre-échange, c'est encore pas forcément sur le chômage, mais beaucoup sur les niveaux de salaire. Le libre-échange, comme je l'ai dit, met en concurrence des salariés au niveau de salaire très différent. Ça veut dire que dans les pays du Nord, ben, il y a une forte pression à la baisse sur les salaires. Vous avez des usines qui vont dire « ben voilà, on va fermer ». Puis après qui disent « ah ouais, finalement, c'est vrai, bon, on pourrait garder la moitié des emplois, mais alors, voyez, il faut des sacrifices salariaux parce que voilà, après notre compétitivité serait menacée, quelques allègements fiscaux substantiels, bien sûr ». Et généralement, ben, les multinationales ou les grandes entreprises obtiennent gain de cause. Et au total, vous vous retrouvez avec des ouvriers, bon, ben, soit qui sont licenciés, soit qui vont se retrouver avec un salaire réel moins fort. Et quand vous êtes dans cette situation, lorsque vous n'avez plus beaucoup d'argent, de la difficulté à subvenir à vos besoins de base, ben, vous ne pouvez plus investir et vous ne pouvez plus acheter grand-chose. Enfin, vous pouvez plus consommer. Là, j'utilise le terme consommer dans le sens de subvenir à ses besoins de base et de pouvoir s'acheter certaines choses pour des activités d'agrément, hein, pas forcément le terme consommer dans l'optique actuelle où il faut acheter 3 iPads, 4 ordinateurs et 2 voitures. Mais enfin, il y a quand même certains besoins de base, certaines activités d'agrément pour lesquelles on dépense de l'argent. Et là, ben, ça devient très difficile. Donc forcément, les ouvriers, les travailleurs, les ménages, les PME de l'économie réelle vont se serrer la ceinture. Et après, on arrive à quoi ? Ben, on arrive à une crise de la demande. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus acheter grand-chose. La croissance économique devient faible. Certes, encore positive en Europe, mais c'est essentiellement à cause de plans de relance qui constituent des emplâtres sur une jambe de bois, mais on aboutit à une crise de la demande qui va d'ailleurs bientôt se répercuter sur d'autres pays, notamment la Chine. La Chine, à l'heure actuelle, a réussi en 2008-2009 à relancer son économie via une politique délirante de crédit très très facile, qui a créé une immense bulle immobilière dont la taille est deux fois supérieure à celle de la bulle qui a précédé l'éclatement, la crise des subprimes. Et la conséquence, c'est que l'économie chinoise commence à fortement ralentir. Enfin, la plupart des chiffres de la croissance chinoise sont truqués et peu crédibles, mais commence à ralentir et risque fort de s'effondrer l'année prochaine. Ce qui aura évidemment des conséquences sur toute l'économie mondiale. Et ça veut dire qu'en Chine, la portion de la population assez limitée qui avait pu accéder à la classe moyenne et créer un début de marché intérieur va probablement s'effondrer. Et la Chine va se retrouver quasiment sans marché intérieur vers lequel écouler ses produits et pénaliser par une forte crise mondiale qui va diminuer le volume de ses exportations. Tout ça pour montrer que le libre-échange fait perdre les pays du Nord, les pays du Sud et les pays émergents. C'est une guerre de tous contre tous, hein. Donc au début, il y a certains vainqueurs, mais à terme, tout le monde se retrouve perdant. Et en plus, le libre-échange empêche toute politique de relance. Enfin, il y a des économistes qui condamnent l'austérité, bon, ils ont raison, et qui disent il faut faire de la relance, créer du pouvoir d'achat, par exemple en Europe. Mais le seul problème, c'est que dans une économie totalement ouverte, dans une économie qui tolère une concurrence ultra déloyale entre les travailleurs, si vous créez du pouvoir d'achat pour les ménages en Europe, ça profitera surtout aux exportations chinoises. C'est de l'argent qu'on dépense notamment pour la Chine et dans une certaine mesure pour l'Allemagne. L'Allemagne qui depuis 10 ans a très fortement comprimé ses coûts salariaux,
enfin, la situation des salariés en Allemagne est catastrophique. Les salaires réels ont fortement baissé. C'est un pays qui a des excédents commerciaux au détriment des autres pays de l'Union européenne. Et si tout à coup les autres pays de l'Union européenne injectent de l'argent pour créer du pouvoir d'achat pour les ménages, ben, ils pourront acheter davantage de produits, notamment allemands. Donc ça va relancer essentiellement l'Allemagne, qui est en définitive la Chine de l'Europe. Donc en résumé, le libre-échange, ça aboutit à une hausse du chômage dans le Nord. Ça aboutit à une crise de la demande en Europe, dans les pays du Sud et même bientôt dans les pays émergents comme la Chine. Et ça empêche toute politique de relance. Le libre-échange, d'une certaine manière, c'est la mise sous tutelle de l'économie mondiale au service d'une petite minorité, au service de multinationales qui vont pouvoir s'en mettre plein les poches. Et tout ça, c'est lié à un autre phénomène que je vais aborder assez vite. Enfin, là, il y aurait de quoi faire une conférence de 3 jours, mais je vais essayer de vraiment aller à l'essentiel sur le fait que l'économie actuelle est devenue un capitalisme ultra-financiarisé. C'est une économie complètement dominée par la finance et par les exigences de rendement de la finance. Et là, ben, pour illustrer mon propos, il y a un chiffre qui est absolument extraordinaire. En 2002, les produits dérivés, le volume total des produits dérivés était de 1 500 milliards de dollars. Alors on entend 1 500 milliards de dollars, on a tendance à se dire « Oh là, c'est énorme !» Bon, en fait, c'est des peanuts. À l'heure actuelle, le volume total des produits dérivés, c'est 706 000 milliards de dollars. Soit 13 fois le PIB mondial. Le PIB mondial, grosso modo, c'est ce qui est produit grâce au travail. Et à côté de ça, on a donc une économie financière qui est, si on regarde à partir des produits dérivés, au minimum 13 fois plus grosse. Et cette économie financière a des exigences de rendement énormes. Et là, je m'inspire de propos que Michel Rocard avait tenus en 2007, en prédisant la crise de 2008, où il disait, ben, à l'heure actuelle, on voit grosso modo que le PIB augmente de 2%, on voit que la finance a un rythme de croissance de 10 à 15%, et que la finance aspire en permanence à une rentabilité de 15%. Une rentabilité de 15%, enfin c'est une économie de guerre. Que va-t-il se passer dans un tel contexte? Ben, dans un tel contexte, il va y avoir une pression terrible sur l'économie réelle pour augmenter son rendement. Et pour augmenter le rendement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut diminuer les salaires réels et dégraisser. Et on est en permanence dans cette spirale infernale où vous avez en définitive l'hypertrophie de l'économie financière qui exerce une très forte pression sur l'économie réelle qui se retrouve à devoir diminuer les salaires réels dans le Nord comme dans le Sud. Et le meilleur instrument pour y parvenir et satisfaire les exigences du libre, les exigences des oligarchies financières, ben ce sont les traités de libre-échange. Donc en définitive, les traités de libre-échange, ce sont des instruments au service d'un capitalisme ultra-financiarisé où les banques, la plupart du temps, jouent un rôle de prédateur. L'économie d'il y a 20 ans, c'est fini. Il y a 20 ans, une banque, vous veniez vers moi, vous me disiez, ben voilà, j'ai besoin de 200 000 francs, j'aimerais un prêt. Et en tant que banquier, je vous aurais dit, ben voilà, je vous accorde un prêt avec un intérêt, puis après vous me remboursez, moi je me fais un peu d'argent avec les intérêts, je suis content, puis grosso modo tout va bien. À l'heure actuelle, ça se passe plus du tout comme ça. Les banques commerciales cherchent des bénéfices extrêmement rapides via la spéculation, via les actifs des multinationales. Ça débouche sur une course délirante au profit qui est rendue possible par le fait que quasiment toutes les règles qui encadraient la finance ont été abolies. Et ça exerce une pression terrible sur l'économie réelle qui devient en définitive un citron que l'on presse le plus possible jusqu'au moment où il n'y a plus une seule goutte. Et autant l'économie réelle que les travailleurs sont en définitive des citrons qui ensuite sont jetés sans le moindre état d'âme. Et au cœur de ce système actuel d'économie financiarisée, totalement dérégulée, il y a un pays, la Chine. Alors la Chine, c'est la première ou la deuxième économie mondiale. Vous imaginez les perspectives extraordinaires que cela nous offre. Mensonge. La Chine, en termes de PIB par habitant, c'est au mieux la 88e économie mondiale. La Chine, elle se situe quelque part entre la Moldavie et le Turkménistan. À la différence près que l'économie chinoise est littéralement dopée depuis 2009 par le crédit. Le crédit qui finance des infrastructures délirantes et démesurées dans le secteur immobilier et dans les infrastructures. Une bulle qui va prochainement exploser avec des ravages qui font froid dans le dos. Mais la Chine, c'est un géant au pied d'argile. Et c'est un pays égoïstement protectionniste qui défend ses intérêts de manière extrêmement agressive. En matière monétaire, ils dévaluent au maximum leur monnaie pour favoriser leurs exportations. De temps en temps, ça fait grincer des dents aux États-Unis, notamment. L'Union européenne reste étonnamment silencieuse. Et puis, c'est un pays qui est l'atelier du monde, qui a été l'atelier du monde durant la première décennie du XXIe siècle, qui offre pour les multinationales et les grandes entreprises des salaires très bas, ce qui permet de fabriquer des produits bon marché qui peuvent ensuite être exportés dans le monde entier. Et c'est un système de concurrence ultra déloyale de la part d'un pays qui défend ses intérêts de manière totalement égoïste, et qui est un pays égoïstement protectionniste. Un pays protectionniste qui déstabilise l'économie mondiale et qui continuera probablement à la déstabiliser lorsque enfin, il y a deux bulles en Chine. Il y a la bulle immobilière, taille deux fois supérieure à celle de la bulle qui a éclaté l'éclatement des subprimes. Et une autre bulle, c'est l'endettement des collectivités locales qui est très très élevé. Les problèmes d'endettement, c'est pas qu'en Europe. Ils sont forts en Chine, et le jour où cette bulle va éclater, et c'est probablement assez proche, la Chine va se retrouver confrontée à de grosses difficultés qui auront évidemment un impact sur toute l'économie mondiale. Ah oui, soit dit en passant, alors la Suisse, là-dedans, nous avons notre conseiller fédéral Schneider-Hamann, qui dit grosso modo, chaque fois qu'il y a des fermetures d'usine, oui, c'est un peu douloureux, je comprends un peu les salariés, mais on peut pas faire autrement. Et puis moi, maintenant, je suis en train de négocier un accord de libre-échange. Ça va nous offrir des possibilités économiques. Et puis après, ça va aller mieux pour le travailleur. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il nous dit. Donc, il est tout content de négocier un accord de libre-échange avec la Chine. Un accord où, évidemment, il ne veut pas de mention des normes du travail et des droits humains, enfin peut-être éventuellement dans le préambule, pour faire joli. C'est un petit peu comme les géraniums sur les chalets bernois, ça fait très très joli. Mais il ne veut surtout pas que ce soit contraignant, et il pense sincèrement que ça pourrait contribuer à relancer l'économie suisse. Alors maintenant, je viens brièvement à la conclusion, enfin plutôt aux pistes, remèdes pour sortir de cette économie ultra-financiarisée qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme des Trente Glorieuses. Là, il y a trois pistes qui devraient, à mon avis, beaucoup nourrir la discussion tout à l'heure et cet après-midi. Alors bon, une piste dont on a parlé, c'est imposer le respect des droits humains et des droits du travail dans les accords de libre-échange. Bon, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, c'est sûr que si on met des accords, des normes sur les droits humains et les droits du travail dans l'accord commercial avec la Chine, ou plutôt dans le préambule, ça n'aura probablement pas beaucoup d'impact sur le terrain. Par contre, ça permet quand même de sensibiliser la population au fait que la Suisse est prête à tout brader sur l'autel du profit et du libre-échange. Et puis, ça permet aussi d'exercer une certaine pression et une prise de conscience des milieux politiques, comme l'a souligné Carlos Omarouga hier soir, en 2006, ces histoires de normes du travail dans les accords de libre-échange. Il y avait 9 parlementaires à Berne qui étaient pour. Lorsqu'il s'est agi de l'accord avec la Colombie, il y en avait 70. Donc là, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, et parfois des politiciens de droite qui, en commission, lèvent la main en disant « Oui, mais droits humains, droits du travail, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, c'est quand même un aspect non négligeable. Ça veut dire que la prise de conscience commence à déteindre de manière évidemment positive sur l'ensemble de la gauche et sur une partie du centre-droite. Cela dit, c'est pas évidemment pas suffisant. Une remise en cause frontale du système de libre-échange est nécessaire. Et là, Jacques Sapir propose un système de protectionnisme altruiste, c'est-à-dire des accords internationaux où les pays qui ont des droits de douane, qui perçoivent des droits de douane sur les importations d'autres pays, par exemple de la Chine, accepteraient de rétrocéder ces recettes pour financer la mise en place de formes de protection sociale. Bon, critique, ça peut apparaître un peu comme colonialiste et on impose ce genre de choses aux pays du Sud. D'un autre côté, par rapport à des pays eux-mêmes colonialistes, là je parle absolument pas de la Colombie, je parle de la Chine, par rapport à des pays eux-mêmes colonialistes qui prennent totalement possession, par exemple, de l'Afrique, de telles mesures seraient tout à fait sensées pour promouvoir des règles du jeu à peu près équitables et mettre un terme à cette concurrence ultra déloyale qui est une spirale permanente vers le bas et vers la baisse des salaires. Puis dernier élément, encore 43 secondes, une politique de réindustrialisation est aussi nécessaire. Le prix du pétrole est de toute façon voué à flamber. Enfin, tout ce qu'on nous raconte sur les gaz de schiste et tout, c'est largement exagéré. Ça remplacera jamais le pétrole qui est une énergie beaucoup trop bon marché. Et le prix du pétrole va fatalement augmenter, enfin, d'autant plus que la situation politique est très instable au Moyen-Orient. Et ça veut dire que les pays du Sud, les pays émergents d'Asie du Sud-Est et les pays du Nord ont tout intérêt à relocaliser leurs activités de production. Ça peut impliquer certaines nationalisations ou nationalisations partielles dans le Sud. Dans le Nord, ça implique de se doter à nouveau d'une industrie. Et à ce petit jeu, un pays comme la Grande-Bretagne, qui a totalement misé sur la finance et qui a des comptes publics catastrophiques, quasiment pire que la Grèce, à ce petit jeu, la Grande-Bretagne va énormément souffrir lorsqu'elle se verra dans l'obligation de se redoter d'une industrie à peu près performante. Puis évidemment, contre-temps, il y aura eu 40 ans de libre-échange et de dérégulation qui auront frappé de plein fouet la majorité de la population britannique. Et je terminerai en citant un homme politique illustre, Franklin Delano Roosevelt, qui a déclaré en 1936 « Il est tout aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé ».